Sans doute, on est dans un contexte particulier en Chine aujourd'hui. Les autorités cherchent à convoquer très prochainement ce qu'on appelle l'Assemblée nationale des représentants catholiques. C'est un ovni institutionnel dans l'Église de Chine, dans l'Église universelle. C'est une instance qui réunit différents délégués, les évêques, différents prêtres, des religieuses, tout un tas de monde, qui doivent élire, entre guillemets, le président de la conférence épiscopale et le président de l'association patriotique, de postes qui sont actuellement vacants depuis quelques années. Donc c'est un organe éminemment politique, et pour que dans le système politique chinois ces élections puissent se faire, il faut qu'elles soient jouées d'avance, entre guillemets, autrement dit que l'ensemble de ce corps soit à la main du gouvernement chinois pour qu'ils élisent le candidat souhaité par Pékin. Ce qui est clair, c'est que l'association patriotique, en travers son vice-président, Liu Baiyan, qui est un catholique et un laïc, a forcé cette ordination. Donc on est là dans un système tout à fait contrôlé, où des instances, semble-t-il, autonomes ou indépendantes même du pouvoir, comme la conférence épiscopale, la conférence des évêques de Chine, donc, en fait, n'existe pas autrement que contrôlée par le pouvoir.
À quoi ça sert pour Pékin, justement, de contrôler les catholiques sans accord aucun avec le pape ?
C'est une question qui dépasse l'Église catholique, mais qui est contenu dans les termes utilisés par le Saint-Siège dans ces deux communiqués. Le Saint-Siège parle de graves violations de la liberté religieuse. Il s'agit de cela, effectivement, puisque finalement, à travers l'Église catholique, le pouvoir chinois réaffirme qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas concevoir d'instance indépendante dans le corps social chinois, indépendante de son contrôle. Autrement dit, pour dire les choses clairement, aucune association, aucun syndicat, aucune église, a fortiori, ne peut exister en Chine s'il n'est pas d'une manière ou d'une autre contrôlé ou contrôlable par le pouvoir en place. Il doit y avoir un lien très fort avec le pouvoir, et c'est ce lien qui est en jeu actuellement lorsque le pouvoir organise l'ordination épiscopale de ce père, le père Guo Tingchai, qu'elle veut sans doute voir revêtir des habits épiscopaux, puisqu'elle veut sans doute lui confier des responsabilités importantes lors de cette prochaine Assemblée nationale des représentants catholiques.
Il y a quand même eu des accords entre le Vatican, le Saint-Siège et puis l'État, la République populaire de Chine sur des ordinations auparavant. Pourquoi celle-ci bloquait, selon vous ?
Il n'y a pas eu d'accord à proprement parler. Il y a une espèce de mode opératoire qui fait qu'effectivement, pour un grand nombre de sièges qui étaient vacants, 10 depuis le début de cette année 2010, il y a eu la possibilité que les candidats qui étaient choisis au sein de l'Église soient approuvés par Rome. Autrement dit, les dossiers des futurs évêques étaient transmis à Rome, qui donnait son accord, et c'était des dossiers qui recevaient l'assentiment de Pékin. Tacitement, le Saint-Siège, depuis quelques années, renonçait à nommer de nouveaux évêques clandestins pour la partie clandestine de l'Église, et en échange, Pékin s'engageait, d'une certaine mesure, à ne pas effectivement forcer l'ordination de candidats qui n'auraient pas reçu l'assentiment de Rome. Cette ordination du 20 novembre vient rompre cette chaîne ininterrompue donc depuis 2010 de 10 ordinations. Il faut remonter aux années 2000, en 2000, puis en 2006, il y a eu deux occasions où des évêques officiels ont été ordonnés et de manière illicite, c'est-à-dire sans avoir reçu ce mandat de Rome. Donc pourquoi à nouveau une rupture dans cet accord ? Sans doute là, il faut voir la volonté de Pékin de réaffirmer ce principe selon lequel, encore une fois, aucune église, aucune instance ne peut exister indépendamment de son contrôle en Chine aujourd'hui.
Avant d'en venir à la réaction du Saint-Siège, est-ce qu'il y a eu des réactions sur place à la fois des évêques et puis des chrétiens par le biais de médias, de protestations, de rébellions, enfin ?
Les médias sont totalement verrouillés. Les sites catholiques ont reçu l'interdiction de mentionner cette ordination. Les catholiques chinois s'expriment néanmoins. Ils s'expriment sur la blogosphère, tant au sein des blogs où ils changent d'identité, utilisent différents pseudos pour échapper aux poursuites de la police. Donc oui, il y a des discussions très fortes là-dessus pour effectivement dénoncer en grande c'est la tonalité générale, parce que si Pékin est relativement attentif à faire ordonner des évêques qui ont reçu l'assentiment de Rome, c'est qu'il a bien compris que les fidèles ne suivaient plus, ne voulaient plus suivre des évêques qui recevraient l'épiscopat sans ce mandat pontifical. Les catholiques votent avec leurs pieds quelque part en Chine en refusant de travailler avec ces évêques illégitimes, mais ils sont dans un régime extrêmement contrôlé, et donc on ne peut pas effectivement attendre de leur part qu'ils descendent dans la rue pour manifester. Les évêques, eux, réagissent également à leur manière, c'est-à-dire que le gouvernement est obligé de, entre guillemets, exercer de très fortes pressions sur leurs épaules pour qu'ils acceptent, contraints et forcés, de venir ordonner ce prêtre à l'épiscopat. Et le communiqué du Saint-Siège témoigne de cela, puisqu'il s'interroge sur la validité du sacrement conférée au père Gouault dans la mesure où les évêques ont été contraints.
Donc ce mercredi, un communiqué du Saint-Siège a été publié. Les mots sont plus durs que la normale. Un pape blessé, des fidèles humiliés, une église qui n'a pas été respectée. Vous, comment est-ce que vous percevez le ton de ce communiqué ?
D'une certaine manière, tout avait été dit déjà par le pape dans sa lettre aux catholiques de Chine en 2007, avait été redit, précisé même dans un communiqué de mars dernier par la commission qui se réunit au Saint-Siège pour suivre les affaires de l'Église en Chine. Les choses avaient été clairement dites, effectivement, sur l'impossibilité de rompre cette communion de l'Église universelle avec l'Église de Chine par le lien des évêques. Sans doute qu'effectivement, les attentes du Saint-Siège étaient grandes dans la mesure où des négociations, non pas secrètes, mais tout à fait discrètes, existaient entre Pékin et Rome quant à une normalisation des relations diplomatiques ou tout simplement des relations entre les deux instances. Aujourd'hui, le Saint-Siège est obligé d'admettre, finalement, que ces négociations ne mènent à rien pour le moment.
L'Église dit toujours que le dialogue est ouvert avec la République populaire de Chine. Elle parle, elle évoque une excommunication pour le nouvel évêque de l'Église officielle. Est-ce que les Chinois ont peur de cette excommunication ou pas ? Est-ce que ça ne serait pas une façon aussi de rompre définitivement un dialogue ?
Ces menaces de sanctions canoniques, donc on parle d'excommunication de fait pour les évêques ou les prêtres qui entament gravement la communion de l'Église en acceptant l'épiscopat sans mandat pontifical, on est dans ce cas de l'excommunication de fait. Elle avait été mentionnée en 2000, en 2006. Le 18 novembre, avant donc l'ordination, le communiqué du Saint-Siège n'en faisait pas mention. Là, cette fois-ci, après l'ordination, mention est faite de cette excommunication à nouveau, uniquement pour le père Gouault, celui qui a reçu l'épiscopat. Ça, c'est vis-à-vis des catholiques de Chine, effectivement, pour finalement suivre sans doute ces catholiques de Chine qui refusent de suivre des évêques qui n'auraient pas reçu de mandat pontifical. Vis-à-vis des autorités chinoises, la porte n'est pas complètement fermée, puisque ce communiqué du Saint-Siège appelle finalement les autorités, le gouvernement donc, à recadrer, si je peux me permettre cette expression, ce monsieur Anthony Liu Bainian, et qui est le vice-président de l'association patriotique, pour que l'ensemble de cette structure, non pas de l'Église officielle, mais de cette structure qui est posée au-dessus des catholiques, cesse finalement d'imposer une loi qui n'est pas celle de l'Église sur la communauté catholique.